Vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL et il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et parmi les nouveautés au cinéma, la suite du film d'animation Les Mondes de Ralph. Le film Vice ou Vice à l'américaine, porté par la performance de Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney, l'ex-vice-président américain de George Bush. On en parle dans un instant, bien entendu, avec Stephen Woodstock qui vient d'assurer la... qui vient d'assurer la traduction simultanée. Après plus de 6 ans d'absence sur disque, Stéphane Echer fait son grand retour cette année. Il publiera un album de chansons inédites en juin, mais il nous propose dans l'immédiat un projet de reprise assez original. On va le découvrir avec Steven Bedry, qui a rencontré le chanteur suisse. Nous n'oublierons pas nos express du jour avec Émeric Partenot. Et puis à la télévision ce soir, 7 ex-otages racontent leur voyage en enfer dans un puissant documentaire diffusé à 21h sur Canal+. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin.
Vous tentez.
Vous aurez de quoi faire cette semaine si vous aimez le cinéma. 16 nouveaux films débarquent sur nos écrans. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Avant d'en passer quelques-uns en revue, jetons un coup d'œil, comme d'habitude, sur les résultats de notre box-office.
Avec nos amis du site cbo.fr, carton pour le film d'animation Dragon 3, qui a déjà séduit près d'1 200 000 spectateurs, soit le double de Nicky Larson, qui lui est autour des 620 000 entrées. C'est le moins bon résultat de Philippe Lachaud depuis Babysitting en 2014. La Favorite démarre bien, autour des 150 000. Et pour les continuations, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Atteint les 3,5 millions d'entrées en 15 jours, donc on file directement vers les 7 ouais. millions sans doute. Et puis La Mule, film RTL 2 et avec Clint Eastwood, frôle lui le 1,4 million.
C'est tellement bien.
Bah oui, place maintenant aux nouveautés de la semaine, Stéphane. Et vacances de février oblige, commençons par un film d'animation destiné au public dit jeunesse.
Ralph 2.0 des studios Disney Animation, c'est la suite des Mondes de Ralph sorti en 2012. Rappelez-vous, ça racontait comment un personnage de jeu vidéo qui est un méchant présumé allait se dévoiler et se découvrir en explorant d'autres univers virtuels que le sien. 7 ans après donc, voici le deuxième volet, beaucoup plus réussi, beaucoup plus malin. Cette fois, Ralph et sa copine Vénélope vont visiter le monde d'Internet, puisque la Wi-Fi est arrivée dans la salle de jeu arcade où ils vivent. Idée géniale. L'occasion pour nous de voir comment fonctionnent vraiment nos applications, vous savez, celles de nos smartphones.
Oui, bien sûr.
Et de croiser les personnages de la galaxie Disney. Il y a une scène notamment avec toutes les princesses qui est assez irrésistible. C'est François-Xavier de Maison qui prête à nouveau sa voix au personnage de Ralph. Question logique. Je lui ai demandé de nous parler de son propre lien avec Internet.
Je suis moyennement rentré dans Facebook, mais je suis assez tôt rentré sur Twitter. Twitter, il y a quelques années, c'était plus bienveillant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à être sur Instagram, qui est un réseau, j'ai l'impression, qui n'est pas encore gâté par les haters ou les mauvaises critiques. Donc, il y a quelque chose de très sympa sur Insta. Justement, le film en parle très bien et s'adresse aux enfants ou aux adolescents comme ça, en leur disant, c'est pas parce qu'on te hate sur les réseaux sociaux que t'es pas quelqu'un de bien. C'est pas parce que t'as plein de likes que t'as des vrais amis. Et tous ces messages, ils passent de manière très ludique. Enfin, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait ça aussi.
François-Xavier de Maison, donc la voix française de Ralph dans le film Ralph 2.0 en salle aujourd'hui. Et on retrouve également François-Xavier de Maison dans All Inclusive, dernière comédie de Fabien Toniente avec aussi Franck Dubosc, Les Tribulations d'un homme largué par sa fiancée au moment de partir dans un club de vacances des Antilles. Il va y rencontrer tout un groupe déclopé de la vie ou des sentiments. C'est globalement assez catastrophique, mis à part quelques jolies idées comme celle, clin d'œil au bronzé, de réunir le tandem Balascolaire mis dans le décor d'un club au soleil. Le reste fait un petit peu de peine et ne parvient pas à retrouver l'esprit tendre de la saga Camping, par exemple.
Du cinéma américain à présent, Stéphane, et la sortie d'un des favoris des prochains Oscars, Vice ou Vice, du réalisateur Adam McKay.
Oui, ça marche, les deux marchent en fait. Avec un Christian Bale, grand favori pour la statuette du meilleur acteur, tant sa transformation physique pour incarner Dick Cheney, l'ex-vice-président américain de George W. Bush, est bluffante. Le film raconte en fait le destin extraordinaire de cet ouvrier électricien, devenu l'homme le plus puissant des États-Unis et du monde, imposant un nouvel ordre planétaire et déclenchant, par exemple, et par pur intérêt financier, la guerre en Irak après les attentats du 11 septembre. Portrait jouissif, fascinant, d'un animal politique à sang-froid, filmé par Adam McKay à la manière d'une comédie thriller.
Je savais qu'il était le cerveau du programme autorisant la torture. Je savais qu'il avait noyauté les services secrets pour déclencher la guerre en Irak. Mais en me plongeant vraiment sur mon sujet, je n'en revenais pas de découvrir la manière dont il avait placé ses pions à Washington et au sein de la Maison-Blanche. L'avidité avec laquelle il en a profité m'a sidéré. Quand il a quitté le pouvoir, il était détesté. Mais aujourd'hui, avec les années, certains chez les Républicains réécrivent l'histoire comme si on pouvait optimiser l'inventaire. Il l'apprécie à nouveau. Et on entend même des Américains dire, à cause de Donald Trump, on va finir par regretter Bush et Cheney. Là, moi, je réponds, mais vous êtes dingue. C'est la chose la plus démente que j'ai entendue. Mais oui, sa place dans l'histoire est en train d'évoluer. Il est en quelque sorte réhabilité. C'est très étrange.
Christian Bale ou Amy Adams à l'affiche de Vice ou Vice en salle ce mercredi. Sorti aussi, on en parlait lundi matin, de Alita Battle Angel, nouvelle superproduction de James Cameron, adaptée d'un manga japonais réalisé par Robert Rodriguez. L'histoire d'une cyborg ramenée à la vie par un savant pour redonner espoir à ce qui reste d'humanité. Visuellement, c'est totalement bluffant. Pour les amateurs d'horreur, Happy Birthday to You, la suite. J'adore le titre. Et puis, le principe est génial. Suite des aventures de Tess, une jeune fille qui, dans le premier film, revivait sans cesse son assassinat, devant découvrir qui était son meurtrier masqué. Eh bien là, elle n'a pas de peau. Hein. Elle doit dénouer le fil d'un autre crime. Il n'y a pas vraiment de génie, il y a quelques frissons et surtout le sens d'une formule. Donc je vous annonce déjà un numéro 3 dans 2 ans.
Eh ben voilà. Un documentaire pour terminer, Stéphane. Ah oui. Comme un seul homme de Éric Bellion.
Coup de cœur pour ce film haletant qui retrace la course de ce navigateur embarqué en 2016 dans son premier Vendée Globe, course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. Il avait terminé quand même 9e après 99 jours en mer. Ce documentaire beau, fascinant, suit son périple. On alterne les moments de joie, d'euphorie, d'abattement, de pleurs à travers les océans et les éléments. Extrait, on est le jour de Noël, le vent est complètement tombé. Éric Bellion vient de se retrouver bord à bord avec deux autres concurrents. Non. C'est sa première rencontre humaine dans une mer de solitude. Et il confie à son seul ami son bateau.
J'ai un peu le cafard, c'est le soir de Noël, parce que j'ai vu Alan, parce que j'ai vu Enda, parce que j'ai vu du monde et que je me retrouve seul maintenant. Donc j'ai besoin de toi, comme t'as besoin de moi. T'es ma famille là, et moi je suis ta famille.
Quand l'homme en vient parler à son navire comme s'il était devenu humain, c'est vraiment un des éléments troublants de ce formidable documentaire « Comme un seul homme » donc de et avec Éric Bellion. Découvrez ça au cinéma ce mercredi. À voir aussi les Drapeaux de papier, joli film sur la réinsertion et la seconde chance. Avec Guillaume Gouix et Noémie Merlant, ça raconte les retrouvailles difficiles entre une sœur et un frère. Ce dernier vient de passer de longues années en prison. Saura-t-elle l'aider? Voudra-t-il être aidé? Qui finalement aidera le plus loin? L'autre réponse au cœur d'un film rude et émouvant.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Dans quelques instants, Nos Express, où il sera fortement question notamment de la nouvelle saison de Koh-Lanta.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi, les Express LVT.
Et voici donc nos Express du jour préparés par Aymeric Partonneau de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Aymeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1 est donc désormais dans la boîte et la chaîne a présenté le premier épisode à la presse.
Oui, et il faudra attendre la mi-mars pour que nous, simples mortels, puissions le découvrir. Seule Isabelle Morini-Bosse qui s'y présente a pu voir cette émission.
C'est formidable.
Et on peut dire que la saison va commencer très fort. Alors une tradition a été modifiée, vous le savez sans doute, l'épreuve finale légendaire de ce poteau. Jeu d'aventure, ce sont les poteaux sur lesquels les candidats maigres et affaiblis doivent tenir le plus longtemps possible. Cette fois, bah, pas de jaloux, hein, les candidats vont tous commencer avec cette épreuve. Bon, promis, ça va être assez, comment dire, assez difficile pour eux parce que les poteaux vont se réduire au fur et à mesure. Ouais. L'an dernier, l'émission avait été annulée, il faut le rappeler, après des accusations d'agression sexuelle entre les candidats. Certains vont-ils faire leur retour? Denis Brognard a répondu à Isabelle.
Évidemment, on a pris la décision de ne pas intégrer à cette saison de Koh-Lanta des gens qui ont participé au Koh-Lanta avorté de l'année dernière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ces candidats-là dans les prochaines saisons, mais ça nous paraissait beaucoup trop frais. On pensait que ces gens-là seraient forcément en difficulté très rapidement parce que leur statut, entre guillemets, d'ancien candidat de retour leur serait préjudiciable. Voilà pourquoi, effectivement, ce sont 21 nouveaux totalement vierges de toute aventure de Koh-Lanta.
Donc Koh-Lanta, saison 20, ce sera sur TF1 au mois de mars. Que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec l'Express et RTL?
Alors Sérotonine, le roman de Michel Houellebecq, a allègrement passé la barre des 300 000 exemplaires. Un mois après sa parution, il fait toujours la course en tête. Il est suivi de La guerre des pauvres d'Éric Vuillard, arrivé à la troisième place du dernier Stephen King, L'Outsider. Enfin, l'une des meilleures progressions de la semaine est réalisée par La goûteuse d'Hitler de l'italienne Rossella Postorino, qui se classe quatrième.
Ce palmarès complet à retrouver dans les pages de l'Express. Le troisième volet du spin-off de Harry Potter au cinéma, Les Animaux Fantastiques, va une nouvelle fois déménager.
Oui, J.K. Rowling aime bien changer d'air. Alors sur RTL.fr, nous avions déjà détecté quelques minuscules indices pointant vers Rio de Janeiro, mais là, ça se confirme. Pour le troisième film, attendu au cinéma en hiver 2020, nos sorciers vont voyager jusqu'au Brésil. L'un des acteurs, Dan Fogler, a laissé glisser cette petite indiscrétion accompagnée d'une bonne nouvelle. Ce sera encore plus gros que les précédents films à New York et à Paris. Et d'une mauvaise, le tournage a déjà pris du retard.
Le film culte Ghost va être monté en comédie musicale au théâtre Mogador à Paris.
Unchained Melody par les Righteous Brothers. Alors, une chanson qui sent bon le romantisme et la poterie à domicile.
Ah oui.
C'est la musique de Ghost dans nos cœurs, mais il y a aussi une comédie musicale créée à Londres en 2011 qui raconte cette histoire d'un fantôme, Patrick Swayze, au cinéma, qui veut sauver sa femme, Demi Moore, grâce à l'intermédiaire d'une médium, l'inoubliable Whoopi Goldberg. Ce musical, comme on dit, sera en septembre à l'affiche du théâtre parisien qui vient de produire Le Roi Lion, Sister Act ou encore Grease. Les musiques sont signées par Dave Stewart du Rhythmics et Glenn Ballard, qui a travaillé notamment avec Michael Jackson, Céline Dion ou Elton John, excusez du
pas. C'est pas mal tout ça.
Ah bah oui, fait envie.
Merci beaucoup Émeric Partono. On continue en musique avec, après plus de 6 ans d'absence au rayon disque, Stéphane Escher fait donc son grand retour cette année. Le chanteur suisse publiera un album d'inédit en juin, mais retrouve tout d'abord son public avec un projet de reprise tout à fait singulier. Bonjour Stephen Bell.
Bonjour à tous.
L'album s'appelle Hu et sort vendredi prochain.
Mais Hu, pourquoi Hu? C'est la question que j'ai posée en préambule à Stéphane Escher.
C'est sur un cheval qui ne veut pas avancer, vous dites Hu. Et c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans les spectacles et on ne fait pas 1, 2, 3, 4. Nous on dit beaucoup Hu et je trouve ça amusant, c'est un peu taquiné, mais que le journaliste français, déjà le H, vous ne l'utilisez pas dans le langage, et les umlaut sur le U, ça va être merdique d'écrire une critique sur ce disque.
Un disque où Stéphane Escher a réinventé 12 de ses morceaux avec une fanfare. Le résultat est remarquable, exemple avec ce titre de 1987, extrait de son album Silence. Combien de temps si on restait face à face sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps et je bois et je suis. Combien de temps revu et corrigé avec le Tractor Kestar, un collectif suisse de 12 musiciens. Cette idée d'album de reprise, Stéphane Escher l'a eue en renouant avec sa ville d'enfance.
J'ai quitté Berne à 16 ans. J'ai une tendresse pour cette ville, comme je crois chaque personne qui a passé son enfance dans un endroit typé comme la ville de Bernay. Mais je suis revenu pour un moment un peu troublant. Ça veut dire que mes parents ont un âge maintenant où ils ne peuvent plus vivre dans la maison où j'ai grandi. J'étais à Berne pour m'occuper de mes parents. En 2016-17, j'étais beaucoup là. J'ai commencé à faire les promenades que je faisais comme jeune adulte. J'ai revisité les clubs et j'ai entendu ce Tractor Kestar, cette fanfare balkanique. Mes parents, Berne, entendent ce groupe. On a enregistré 24 pièces qui sont basées sur les arrangements existants. Et à la fin, on a écrit chaque chanson sur un post-it et on a fait une espèce de playlist de rêves pour chacun. Et c'était des discussions. On est des Suisses, ça veut dire qu'on a une façon de beaucoup discuter. On est des Bernois, on gueule pas vraiment. On sait pas, on est trop lent, on est trop flegmatique pour gueuler. Mais on aime bien discuter et trouver la meilleure forme, une espèce de consensus, un compromis. Tu traverses la pièce en silence que tu passes devant moi. Je regarde tes champs, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi, non, non. Pas d'autres amis comme toi.
Comme toi, paru dans le formidable Engelberg en 1991. Alors oui, c'est chargé, cuivré, percussif, mais le travail de remodelage est assez inattendu. Les titres oubliés comme La Chanson Bleue ou Louange prennent une autre dimension dans leurs nouveaux habits. En revanche, n'y cherchez pas déjeuner en paix ou des hauts débats, écartés du projet par votation suisse, on l'a compris.
Eh ben oui, on l'a compris. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le rock balkanique n'a rien de nouveau pour Stéphane Escher. Hein.
Oui, c'est la musique qu'il entendait à la maison gamin. À bientôt 60 ans, Stéphane Escher renoue d'une certaine manière avec ses racines musicales.
Mon père vient d'une population qui s'appelle les Yéniches, qui sont des gens de voyage. Oui, une histoire un peu triste dans ma famille, parce que jusqu'aux années 70, en Suisse, on a essayé de séparer les enfants des familles de Yéniches pour les mettre dans des familles sédentaires, pour briser cette idée de voyage. Mais ça laissait des petits troubles émotionnels dans toutes ces familles des Yéniches. Voilà, il y a toute une histoire qui est pas gaie. Avec le Tractor Kestar, qui est dans ses sonorités, essayant d'utiliser tout ça pour faire quelque chose quand même de très très festif, très positif, j'espère, très lumineux.
Donc c'est des sonorités que vous écoutiez à la maison gamin?
Oui, je jouais même jusqu'à 12 ans. J'ai commencé à me révolter contre mes parents. Et encore pire, quand je suis entré dans le punk rock et les new wave, là j'ai nié totalement mon passé. Ce peu d'amour qui me donne des avaricieux, ma facilité est un homme, je te vendrai par le milieu.
Ce peu d'amour 1999, cet album Hu a aussi été l'occasion pour Escher de prendre un petit peu de recul sur son répertoire.
Quand j'ai joué les chansons bleues aux musiciens pour expliquer les accords, le changement, ma vision de la chanson, j'ai dit « mais vous connaissez ?» Et ils m'ont dit « monsieur », parce qu'il m'a longtemps, il m'appelait encore monsieur. On n'était pas nés. Tous les musiciens qui sont autour de moi, ils n'étaient pas nés quand j'ai écrit mes premières chansons. Ça veut dire que j'ai dû les expliquer à eux. Et tout à coup, ils commençaient à jouer dans un contexte plus contemporain. Je dis, oui, ils sont pas si moches, mes chansons d'enfance.
Le monde entier est toujours là. Demain de bon matin.
C'est vrai qu'à l'écoute de ce disque, on se rend compte que votre répertoire vieillit très très bien.
Merci.
C'est une fierté, ça.
J'ai pas entendu vous le répéter. Vous l'enregistrez, cette partie-là, s'il vous plaît. Vous me l'envoyez comme ça, quand je suis un peu mélancolique, je l'écoute.
Vous êtes fier de ça?
Oui. On se sent pas toujours compris dans ce métier. Vous savez, quelque part, j'ai peut-être fait quelque chose un petit peu juste, quelque part. Et pas tout raté, comme j'ai toujours l'impression. Je crois que j'ai une vraie naïveté. C'est un cadeau que j'ai reçu. Une possibilité artistique de les encadrer, ces émotions un peu naïves. Je crois que ça peut laisser la place à un public. Mais je préfère que le cerveau humain finisse les œuvres d'art. Et je crois que mes œuvres sont si pas finies qu'il y a cette, peut-être appeler sa qualité, c'est un peu exagéré, mais il y a cet élément.
C'est étrange, c'est ahurissant. Enfin, comme tu changes du jour au lendemain, ton cœur change. Un jour près, un jour loin, la distance est pire présent que le venant.
Étrange, c'est l'une des chansons, les quatre inédites qu'il a glissées dans cet album qui s'appelle U, c'est le nouveau Stéphane Escher. Il sort dans deux jours, ce vendredi. Vous découvrirez une belle pochette, hommage à celle de Fantaisie militaire d'Alain Bashung. Stéphane Escher publiera un disque inédit en juin. Il viendra peut-être nous en parler dans Laissez-vous tenter.
On
tiens, tiens.
Heureux,
et toute une série de rééditions de son ex-groupe Groszone est attendue également en fin d'année. C'était son ancien groupe, hein, Groszone. Et Stéphane Escher et toute sa fanfare. Concert exceptionnel dans le grand studio RTL. Samedi 23 février à 14h30. Ne ratez pas ça, c'était énorme.
Donc, si je peux venir, je viens, moi.
Regardez, ne pas toucher.
Merci de ce délicieux moment passé avec Stéphane Escher, Stephen Bellery. Dans quelques instants, on va parler télévision avec beaucoup de gourmandise. Ce sera avec Isabelle Morini-Bosque, comme chaque jour.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h22. On va commencer avec nos audiences médiamétrie de la veille.
Qui est en tête, je vous le demande ?
Je ne sais pas, mon
Eh bien, la stagiaire, de France 3, 4 300 000 téléspectateurs, c'est 30 000 de plus que les Action Joe de SWAT sur TF1.
Bah, j'ai regardé foot, hein, vous, excusez-moi.
Oui, chacun
sur Facebook.
Truc. Et la France de l'entre-deux-guerres s'en sort pas mal, avec tout de même près de 2 900 000 téléspectateurs, 12% du public sur la 2. Et côté TNT, c'est TMC avec 90 minutes en tête, qui est justement en tête, 770 000 téléspectateurs. Alors, le foot, eh ben, je n'ai pas l'audience du foot.
Alors, ce soir, on rappelle évidemment la spéciale RTL, LCI avec Édouard Philippe. On n'oublie pas Top Chef sur M6, ça vous pouvez compter sur moi. Et les victoires de la musique classique sur la 3, bah dites donc.
Oui.
Mais vous avez également deux coups de cœur, pas joyeux mais réussis, m'avez-vous dit.
Oui, c'est déjà ça, même s'il est par moments nécessaire, pour reprendre la formule consacrée, d'avoir un gros moral au départ pour en conserver un petit à l'arrivée. On commence par Ma mère, le crabe et moi sur la 2. C'est un téléfilm racontant le quotidien de Cathy, très bien joué par Émilie Dequesne, une jeune femme divorcée qui découvre qu'elle est atteinte d'un cancer et qui doit vivre cette épreuve avec sa fille, une ado dont le principal souci était jusque-là que sa mère ne sorte pas avec son prof de gym. Cathy est amenée à tout révéler au moment où elle se choisit une robe habillée pour la fête du centre d'être aux drogués où elle travaille.
Et où ? Ça va pas changer de couleur, hein ?
Mais désolée, je suis un peu fatiguée.
Pourquoi ? T'as fait des folies de ton corps ?
Mais elle est belle, non ? Enfin, ouais, elle est peut-être un peu trop...
Bon, tu vas me le dire, oui ou non ?
Te dire quoi ?
Ok, donc tu as définitivement fait le deuil de ton activité intellectuelle. Attends, mais si tu crois une demi-seconde que je vais te laisser là, sortir avec ce gros boulet, son jogging et son sifflet, mais c'est la honte, maman !
Chut ! De quoi tu parles ?
Mais c'est très bien que tu sors avec Parfenon ! Tu crois que j'ai rien vu avec ton air ailleurs et tes absences, là ?
Mais enfin, ma chérie, tu m'as toujours dit qu'il aimait les hommes.
Bah oui, toi aussi, mais pas les beaufs comme ça. Bah, alors t'étais avec qui ce matin ? Pourquoi t'étais tout apprêtée ?
En fait, ce matin, j'étais chez le médecin.
Tu sors avec un médecin ?
On m'a trouvé une petite boule dans le sein gauche. Et on va me l'enlever et en fait, il n'y aura plus de tumeur.
Voilà. La jeune fille, c'est Laurette Nissen, une vraie révélation. Oui. L'ensemble est raconté avec tact. C'est autant un film sur l'éveil à la vie d'une jeune fille qui doit tout gérer à un âge où il est terrible d'être par instant amené à devenir le parent de ses parents. Alors je vous rassure, il y a aussi de l'humour dans cette fiction tirée d'un best-seller d'Anne Persin. C'est un roman jeunesse qui prouve une fois de plus le dynamisme d'un genre littéraire que Laurent Marsic vous fait régulièrement découvrir dans Laissez-vous tenter. Mm-hmm. C'est donc Ma mère, le crabe et moi. C'est à 21h05, 10, 15 sur la 2.
Alors, l'autre temps fort, c'est Otage sur Canal+. C'est une série en fait de témoignages bouleversants d'anciens otages.
Exactement, 7 otages entièrement en confiance face au journaliste Michel Perrard qui a lui-même été prisonnier des talibans en 2001. S'expriment ainsi entre autres Clara Rojas, otage durant 6 ans des FARC en Colombie, elle a même été enceinte d'un geôlier, comme Oscar Tulio Liscano, lui reclus 8 ans en Colombie. Il y a aussi Théo Padnos, américain otage d'Al Nostra en Syrie durant 22 mois, l'italienne Mariani, séquestrée par Al-Qaïda au Maghreb durant 14 mois. Alors, parmi les 7, on a le français Pierre Borghi, otage des talibans durant 4 mois et 10 jours, mais lui, vraiment dans un trou creusé dans le sol. Il ne pouvait absolument ni s'asseoir, ni se retourner, ni s'allonger. Trappe recouverte d'un opercule empêchant tout mouvement. Lui aussi raconte le maximum de choses en un minimum de mots. Pardon d'avoir dû enlever des silences qui, chez lui, sont vraiment un langage. Son pire ennemi, c'est l'obscurité.
L'obscurité, c'est dur parce que t'as pas de repères. Tu sais jamais si tu dors, si t'es réveillé, si t'as les yeux ouverts, si t'as les yeux fermés. Et ce que je fais, c'est que je me bande carrément les yeux pour plus voir le noir, quoi, pour avoir une raison physique de pas voir, quoi.
Alors tous racontent la même histoire, un quotidien fait évidemment de torture et d'humiliation qui rend l'otage fou d'inquiétude à l'idée de perdre plus encore son identité que sa dignité.
Tous les deux jours, il y a Cocor, le vieux de la maison, hein, qui m'amène à manger. Mais lui, il descend pas dans le trou, quoi. Il descend une assiette, plus ou moins pleine, il récupère une assiette vide. Et tous les 3, 4, 5 jours, une semaine, il récupère mon seau toilette pour aller le vider et me le redescendre, quoi. Mais il descend pas. Le mec, quand il me sortait, il se pinçait le nez. Hein. J'ai vécu dans ma merde, quoi, pendant 4 mois. C'est salissant. Je trouve que ça te déshumanise, ça fait partie de la méthode globale pour me briser. Ouais, c'est le but du jeu, c'est pour garder quelqu'un de malléable, de calme, qui fait pas de problème. Il y a des moments, t'en as tapé la tête contre le mur pour t'assommer, pour dormir, t'as envie de mourir, je leur ai demandé, tuez-moi, je peux plus, quoi. T'essayes de pas devenir fou, ouais. Et pas tomber dans la panique, de rester rationnel. Je vais leur demander, par exemple, est-ce que tu sais au moins comment je m'appelle ? Il dit non, il veut pas savoir, je m'appelle Pierre, j'essaye de... Il veut pas le savoir. Ça l'encombre, c'est que s'il faut un jour m'abattre, eh ben, derrière, ce sera Pierre, ce sera pas l'otage, quoi.
Alors, leur truc pour rester en vie et tout, c'est de se chanter ou des chansons ou se réciter des poésies. Lui, il a revisité tout le répertoire de Brassens dont il essayait de retrouver toutes les paroles pendant ces 4 mois.
C'est donc ce soir sur Canal+.
C'est très fort, évidemment.
Et ça s'intitule « Otage ». Merci Isabelle Morini-Bosse. Dans quelques instants, on se sépare et on accueille Julien.
Bonne matinée en compagnie d'RTL.
N'oubliez pas notre rendez-vous avec la journée mondiale de la radio aujourd'hui. Nous vous en avons parlé dès 8h40. Spéciale curiosité, ce sera entre 14 et 15h, avec donc notamment Laurent Marsic, en plus de mes deux camarades. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Et qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pour la journée de la radio ?
Ce que vous voulez.
De la radio ?
Je pense faire ce que vous savez faire.
D'accord.
Voilà.
Bon, pas grand-chose, c'est bien ça le problème. Mais je vais bien trouver quelque chose à faire, notamment aider ceux qui en ont besoin.
Mais écoutez, enfin, vous savez très bien que vous êtes un doué, vous.
Bon, c'est gentil, dis donc.
Qu'est-ce que c'est que cette petite voix mielleuse.
Il se passe un truc.
Ah,
en fait.
Il se passe un truc. Ça mais fait combien de temps que vous êtes sur RTL, vous, Yves ?
Une petite dizaine d'années.
Oui, bah vous en avez mis du temps à me dire ce que vous aviez à me dire.
Je ne dis pas non, je demande juste un peu de temps de réflexion. C'est tout. On en reparlera demain matin.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais. Bon, bah, pour la Saint-Valentin, alors oui, ça me semble
exactement,
une bonne
idée, hein. Je serai votre
Quelle
Valentin.
Quelle belle opportunité.
Quel beau programme en perspective. Déjà, j'imagine le tableau et déjà, ça me fait rêver. Merci beaucoup.
Je vais chercher une table de restaurant, puis on verra.
Bonne journée.
On vous embrasse.